6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin Julie, en Éthiopie, le Tigré occidental est le théâtre de crimes contre l'humanité. C'est la conclusion d'un rapport de deux ONG.
Oui, Amnesty International et Human Rights Watch qui n'ont pas pu travailler ou qui n'ont pu travailler que sur la base d'entretiens téléphoniques avec les Tigréens de l'Ouest restés sur place ou en recueillant des témoignages dans les camps de réfugiés au Soudan. Car contrairement à l'Ukraine où des journalistes et photographes documentent en direct la guerre et son lot de crimes, personne ne peut accéder aujourd'hui au Tigré occidental, autrement appelé Walkait, théâtre de ce que ces ONG qualifient de nettoyage ethnique. Alors il faut imaginer la carte de l'Éthiopie. Le Tigré, c'est cette région du nord du pays attaquée depuis le 4 novembre 2020 par l'armée fédérale aidée par les milices Amara de la région éponyme et limitrophe. Le Tigré occidental est, comme son nom l'indique, dans l'ouest du Tigré et partage une frontière avec le Soudan. Il est 6h44 au Caire où vous êtes, Mehdi Labzaï. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire. Vous êtes sociologue et politiste, spécialiste de l'Éthiopie et vous vous êtes régulièrement rendu dans le Walkait pour vos recherches. Comment le décrire, ce Tigré occidental annexé à la région Amara dans les premières semaines de la guerre et sur lequel les deux ONG ont concentré leur enquête ?
Alors c'est une zone très vaste donc du nord-ouest de l'Éthiopie qui se situe au niveau des trois frontières entre Éthiopie, Érythrée et Soudan. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près la taille d'un pays comme le Liban, avec des régions assez vastes de basses terres qui sont très fertiles et qui sont propices à la culture du sésame et du coton, donc des cultures d'exportation qui représentaient environ 20% des entrées de devises de l'Éthiopie avant la guerre. C'est une zone avec des paysans qu'on peut considérer comme plutôt riches de par les surfaces qu'ils cultivent, qui sont beaucoup plus étendues que dans d'autres zones d'Éthiopie. Et puis c'est une région historiquement qui est plutôt, disons, reculée, lointaine, où la présence de l'État était relativement faible jusqu'au régime actuel. Et pendant la guerre civile qui s'est déroulée de 74 à 91, c'est un endroit où on a eu de nombreux maquis, conservateurs ou pro-régime impérial. Et c'est dernièrement, depuis le milieu des années 2010, une région qui est contestée avec des nationalistes Amara qui notamment évoquent une résistance qui, selon eux, daterait dès l'intégration de cette région au Tigray, donc au début des années 1990.
Donc les nationalistes Amara ont joué un grand rôle dans la reprise de cette région là depuis le début de la guerre de novembre 2020, où ce sont les troupes fédérales du gouvernement d'Abiy Ahmed seules, pour l'instant, enfin dans un premier temps, qui l'ont reprise.
Elles l'ont reprise ensemble. Les troupes des forces spéciales de la région Amara étaient prêtes, même avant le début de la guerre, le long des frontières, elles étaient prêtes à rentrer au Tigray. Et elles sont rentrées dans ce Tigray de l'Ouest avec les forces fédérales, les forces de l'armée fédérale, avec également des milices nationalistes Amara dont on a un peu parlé, qui s'appellent Fanno. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'appui érythréen dont elles ont bénéficié pour libérer, selon leurs termes, cette zone.
Voilà, l'Érythrée voisine est en effet actrice de cette guerre. Alors, dans les informations que les deux ONG ont recueillies pour leur rapport, qu'est-ce qui relève du nettoyage ethnique ? Qu'est-ce qui laisse penser que les Tigréens sont persécutés parce qu'ils sont Tigréens ?
En premier lieu, on peut dire que les Tigréens peuvent penser qu'ils sont persécutés en tant que tels, parce que c'est effectivement ce qu'on leur dit, c'est ce qui donne le titre au rapport. Les autorités ont à plusieurs reprises dit aux Tigréens qu'ils devaient partir, les ont menacés d'extermination. Le rapport documente comment des ordres écrits ont été distribués aux Tigréens de certaines localités pour qu'ils partent. On a aussi eu des réunions publiques où on leur a dit de partir, là encore dans plusieurs localités. Moi-même, j'ai pu me rendre à plusieurs reprises depuis le début de la guerre dans cette zone de Walkait. Et j'ai pu voir comment les administrations délivraient très explicitement des laissez-passer pour que les Tigréens s'en aillent. J'ai vu comme on parlait d'eux comme des vermines ou des punaises de lit, y compris par des gens qui avaient des responsabilités dans l'appareil d'État. J'ai vu aussi comment les autorités les assimilaient systématiquement au parti ennemi, le TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigray. Dans les files d'attente devant les bureaux administratifs, j'ai entendu des mères tigréennes, des femmes souvent âgées, raconter qu'on leur avait dit de partir. Et qu'elle venait prendre donc les laissez-passer nécessaires pour passer les checkpoints et partir. Et puis j'ai pu aussi, par exemple, interviewer l'un des principaux chefs miliciens Amara, qui m'a dit des Tigréens, non, on veut plus d'eux ici. Alors on ne les tue pas, on les raccompagne de l'autre côté de la rivière, qui, selon lui, fait office de frontière entre le Tigray et cette zone de Walkait. Il dit, il m'a dit, on les raccompagne, étant entendu que dans l'argot amharique contemporain, raccompagner, ça veut aussi dire tuer. Donc vous avez un peu une idée de l'ambiance.
Cette rivière, c'est la rivière Tékézé. Fin juillet 2021, une trentaine de corps mutilés étaient repêchés dans cette rivière, mais côté soudanais, à une vingtaine de kilomètres en aval de la ville de Ouméra, en territoire éthiopien. Et les Amara justifient, entre guillemets, l'expulsion des Tigréens, voire leurs exécutions, comme une forme de vengeance, de reprise en main d'une région dont eux-mêmes ont été expulsés quand le Front de Libération du Peuple Tigréen, le TPLF, l'a rattaché au Tigré en 91. Que s'est-il passé à ce moment-là? La région n'était alors habitée et cultivée que par des Amara?
Non, on ne peut pas vraiment dire ça, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ces catégories ethno-nationales étaient pertinentes à l'époque. Notamment, la catégorie d'Amara, elle n'était pas politisée en tant que telle à l'époque, et les élites Amara de l'époque se revendiquaient plus volontiers éthiopiennes. Elles faisaient référence à un nationalisme éthiopien, et elle refusait la politisation de l'ethnicité, donc elle refusait de se déclarer Amara. Et puis on peut aussi dire qu'il y a une différence dans la manière dont les gens ont été expropriés ou expulsés à l'époque, puisque il y a eu de nombreuses expropriations foncières, mais sur une période beaucoup plus longue, et dans un cadre où les densités de population étaient beaucoup moins fortes, beaucoup moins élevées qu'aujourd'hui. Au début des années 90, en fait, le Front de Libération du Peuple du Tigray, le TPLF, installe des personnes qui étaient jusqu'alors réfugiées au Soudan. Donc ils s'étaient réfugiés au Soudan pendant la guerre civile de 74-91. Et le TPLF va en réinstaller environ 30 000 à Walkait. Et parmi ces gens, on trouve aussi d'anciens combattants du TPLF. Donc oui, quand ils arrivent, des expropriations ont lieu, notamment des expropriations de ce qu'on peut appeler de vastes domaines dans les basses terres, de gens qui revendiquaient des domaines très importants. Ensuite, au début des années 2000, d'autres programmes de réinstallation ont lieu, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes en tout qui sont installées. Et cette fois, les personnes viennent de zones du Tigray où les sécheresses et des densités de population très élevées entraînaient des disettes à répétition, voire des famines. Et donc, le TPLF, comme tous les régimes éthiopiens d'ailleurs, sur le temps long, vous considérez ces basses terres comme des réserves foncières où il suffisait d'installer des paysans pour que ceux-ci les mettent en valeur, les cultivent et sortent de la pauvreté, pour reprendre la terminologie. Et donc en arrivant, ces paysans qui ont été réinstallés depuis des zones du Tigray central ont été identifiés comme tigréens, donc comme halogènes, alors que les populations en général parlaient les mêmes langues. Les populations locales parlaient tout autant le tigrinya que l'amharique à l'époque.
Comment documenter le nettoyage ethnique en Éthiopie, dans la région du Walkait? L'invité des enjeux internationaux est le chercheur Mehdi Labzaé, en direct depuis le Caire.
Alors Mehdi Labzaé, comment les Amara peuvent-ils aujourd'hui faire entendre un discours à ce point ethnique et identitaire sur cette région? Vous venez de dire que pendant longtemps ils ont refusé de se dire Amara et n'adhéraient pas à cette lecture ethnicisante de l'Éthiopie. Des mélanges de populations très certainement ont eu lieu, vous parliez de la langue, mais aussi de mariages très certainement entre Tigréens et Amara. Donc depuis quand les militants de part et d'autre adoptent ces lectures de l'ethnicité?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a de nombreux mariages entre les deux communautés qui, jusqu'à un certain temps, étaient indifférenciables localement. Alors, on peut dater à 2015 la création d'un comité qui est important dans les revendications Amara sur Walkait. C'est le comité pour la restauration de l'identité Amara de Walkait Tagadé. Donc Walkait Tagadé étant donc l'autre nom du Tigray de l'Ouest. Et il a été créé par des riches paysans, des marchands, des fonctionnaires locaux qui se mobilisaient suite notamment, voire principalement, à l'attribution de vastes domaines fonciers à des investisseurs affiliés au parti, affiliés au TPLF. Et puis à d'autres mesures que le TPLF avait prises, mais ça concernait surtout des revendications agraires. Et ces revendications ont été formulées avec le langage qui, à l'époque, permettait d'être le mieux pris en compte dans le système du fédéralisme ethnique éthiopien. Et donc, ces hommes ont choisi le langage ethno-national pour formuler leurs revendications. Et donc, ils ont envoyé une pétition à Mekelle, la capitale régionale du Tigray, pour avoir une zone Amara au sein du Tigray. Ce que la Constitution permet. Au début, ils appliquent une vision stricte de la Constitution, mais ils rencontrent une forte répression. Leurs membres sont arrêtés, enfermés, il y a des disparitions forcées, ils ont très probablement été assassinés. Et ça entraîne une radicalisation des positions, puisque les manifestations en leur soutien sont également fortement réprimées à l'été 2016. Et ensuite, dans les deux années qui ont suivi, on a une radicalisation de ces positions nationalistes amara jusqu'à la guerre en cours.
Et en quoi les violences et massacres commis en région tigréenne se distingueraient dans leur nature, c'est terrible à formuler comme ça, mais de ceux commis dans d'autres régions? Un massacre l'été dernier, par exemple, dans le nord de la région Amara, les déplacements de population imposés par les troupes de défense du Tigré, cette fois en région voisine, la région Afar, à l'est du Tigré. Pourquoi les ONG qui essayent de documenter bon an mal an, vous avez pu, Mehdi Labzaei, accéder à cette région, mais très rares sont ceux qui y arrivent. Pourquoi ces ONG ont distingué les massacres commis dans cette région de tous les autres massacres commis en Éthiopie?
Alors, je pense qu'ils se distinguent par leur ampleur et leur systématicité. Malheureusement, on pourrait citer dans toutes les régions d'Éthiopie ces derniers mois des massacres qui ont eu lieu. Mais dans le cas du Tigray de l'Ouest, on parle sur moins d'un an et demi de 700 000 personnes qui ont été expulsées et d'un nombre de morts encore indéterminé. Mais le rapport documente plusieurs massacres de dizaines de personnes et des arrestations par milliers.
Et les expertes et experts qui ont rédigé le rapport pour Amnesty et le HCR établissent le Human Rights Watch établissent des comparaisons avec ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, par exemple, et avec aussi un rôle des forces fédérales du Premier ministre Abiy Ahmed. Et je voulais conclure, Mehdi Labzaei, avec vous sur cette question. Est-ce que lui peut reconnaître une part de responsabilité déjà dans tout ça? Et surtout, est-ce que le gouvernement fédéral peut très longtemps soutenir ces milices Amara?
Alors, il y a déjà des tensions qui se font jour puisque le gouvernement fédéral a décidé d'accorder un cessez-le-feu pour tenter de laisser passer l'aide humanitaire qui ne passe pas du tout comme elle devrait vers le reste du Tigray. Et donc, il y a déjà des tensions en cours entre ces alliés. Après, le gouvernement fédéral est très largement responsable. Abiy Ahmed, le Premier ministre, a à plusieurs reprises remercié les nationalistes Amara dont il a eu grande utilité au début de la guerre, ainsi que les Érythréens. Donc je pense qu'il sait très bien avec qui il s'allie.
Merci beaucoup Mehdi Labzaei d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire, d'où vous étiez en direct ce matin. Merci.
Merci les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie, à 6h45.